13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe, Tout Terrain, c'est l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et nous allons revenir sur l'événement qui a sidéré le monde entier cette année. C'était il y a 8 mois, Notre-Dame en feu, sa flèche qui s'effondre. Et pour la première fois, les ouvriers qui étaient sur le chantier de Notre-Dame, qui se sont confiés à Marion Dubreuil, des hommes qui se sont retrouvés au cœur d'un événement qui les a totalement dépassés. Plongée exceptionnelle dans Tout Terrain avec Gwendoline Debono dans les prisons kurdes où se trouvent actuellement plus de 12 000 anciens djihadistes de l'État islamique et le camp d'Alol qui abrite leur famille, un camp qui prend des allures de petit Raqqa, nous dira Gwendoline. Nous irons à Belle-Île-en-Mer 20 ans après la catastrophe de l'Erika. François Coulon a rencontré un bénévole toujours très marqué par les côtes souillées, par le pétrolier. Et puis pour terminer Tout Terrain, je vous emmènerai en cuisine tous les samedis dans le 18-20 de Wendy Bouchard. Pierre Herbulot vous dévoile les secrets d'une recette. Eh bien, il va nous raconter comment elle glisse son micro jusqu'au fond des casseroles. Voilà pour le programme Tout Terrain, c'est parti.
Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle.
Et pour commencer Tout Terrain, je vous propose de vous replonger au cœur d'un événement qui a marqué l'année. C'était il y a 8 mois, Notre-Dame en proie aux flammes avec sa flèche qui s'effondre. Des images qui ont sidéré le monde entier. Et pour la première fois, des hommes qui travaillaient sur le chantier de l'échafaudage de la cathédrale parlent et racontent, encore profondément marqués par ce qu'ils ont vécu ce jour-là.
C'est une journée que j'oublierai jamais. Quand la flèche s'est effondrée, on m'a ramassé la petite cuillère à côté du parvis parce que moi je me suis effondré complètement. J'ai dit ça y est, c'est foutu.
Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour Fabienne.
Du service police-justice d'Europe 1, c'est donc vous qui avez recueilli ces témoignages. Des hommes, je le disais, qui parlent pour la première fois. Déjà, expliquez-nous qu'est-ce qu'ils faisaient exactement à Notre-Dame.
Eh bien, ces ouvriers, ils travaillaient sur un chantier d'échafaudage. Leur entreprise, d'ailleurs, elle s'appelle Europe Échafaudage. Ça faisait plus d'un an qu'ils étaient sur le chantier de Notre-Dame pour monter cet échafaudage. C'est une première étape dans les travaux de rénovation de la cathédrale Notre-Dame pour permettre aux autres corps de métier d'intervenir ensuite, notamment pour rénover cette fameuse flèche de Notre-Dame qui devait être refaite dès le départ.
Alors, on imagine que pour eux, c'est une forme de fierté de travailler sur un tel monument. Je crois qu'ils vous l'ont dit d'ailleurs.
Oui, ils me l'ont dit. C'est le plus beau chantier de leur vie. C'est le plus prestigieux. Ils ont travaillé sur de nombreuses cathédrales depuis Le Mans, Chartres, Strasbourg. J'en oublie parce qu'ils ont travaillé sur des vingtaines, des trentaines, cinquantaines de chantiers. Ils sont d'ailleurs en ce moment sur le Louvre.
Alors, vous étiez en contact avec eux depuis longtemps. Pourquoi ils vous parlent aujourd'hui ?
Je suis entrée en contact avec eux au lendemain de l'incendie, en fait. C'est le mardi 16 avril. J'appelle Franck Panussa, c'est le chef du chantier à ce moment-là sur la cathédrale.
Celui qu'on a entendu en court extrait, qu'on entendra plus longuement tout à l'heure.
Exactement. Et quand je l'appelle, en fait, il sort de la brigade criminelle, il sort d'une audition qui a duré plus de 7 heures. Il est épuisé, mais il accepte de me parler. Il me répond, et dès le départ, moi, je lui dis, je vous appelle aujourd'hui, je sais que vous n'allez pas accepter une interview tout de suite, mais moi ce que je veux c'est un jour qu'on entende votre témoignage. Et ce qui m'a touchée moi dans son histoire, c'est une petite histoire au milieu de la grande histoire de la cathédrale dont on n'a pas arrêté de parler. Il y a 2 semaines, il m'appelle et il me dit « Je te donne rendez-vous au café au pied de Notre-Dame, un café où on s'était déjà rencontrés, je ne vais pas donner le nom parce que je n'ai pas le droit, il faut que cet endroit reste secret pour préserver leur tranquillité ». Et c'est au pied de Notre-Dame, il quitte le chantier et là il est accompagné de son directeur, Didier Cuisé, que j'ai déjà rencontré, et puis d'un autre ouvrier, d'un autre compagnon, conducteur de travaux principal, Frédéric Reich.
Et ce qui est marquant, c'est qu'il vous donne rendez-vous au pied de Notre-Dame parce qu'il continue aujourd'hui encore à travailler sur Notre-Dame. Vous m'avez dit, il monte l'échafaudage, il démonte plutôt l'échafaudage qui avait été justement installé au départ pour faire les travaux de rénovation.
Et là, quand on est au café, ils ont toujours un œil sur l'édifice.
Comme s'ils couvaient Notre-Dame de leurs yeux en permanence. Alors forcément, ce qu'ils vont vous raconter, c'est cette soirée et cette nuit du 15 avril avec beaucoup d'émotions, on va l'entendre. Hein.
Oui, beaucoup d'émotions parce que cette nuit-là, elle a été interminable pour eux, notamment pour Franck qui a commencé le chantier à 6h du matin. En fait, cette nuit-là, ils ne sont pas tous réunis à Paris. Il y a Didier Cuisé et Frédéric Reich, donc le directeur et le conducteur de travaux principal, qui sont à Jarny, à l'est de la France, au siège de l'entreprise. Franck, lui, il vient de quitter le chantier. Enfin, ça fait 1 heure à peu près qu'il a quitté le chantier. Il vient d'arriver à l'hôtel, son hôtel en région parisienne. Et il allait se poser et finalement, on l'appelle et on lui dit que la cathédrale est en feu.
Et la suite, c'est lui qui la raconte avec à ses côtés les deux hommes dont vous venez de parler. Et on va voir que ce qui est marquant dans leur témoignage, à commencer par Franck, c'est leur sidération quand on leur apprend que la cathédrale est en feu.
Moi, j'arrive à l'hôtel, l'architecte m'appelle, me dit « il y a le feu à Notre-Dame, tu repars là-bas aussi sec ». C'est bon, il n'y a pas le feu, on vient de partir, il y a à peine une heure. Du coup, j'appelle Frédéric, j'étais au courant et tout, il me dit « oh ». Je dis « c'est bon, la blague », il raccroche.
Puis il a essayé de me rappeler, je lui ai pas répondu, puis en arrivant sur Metz, en rentrant dans le restaurant, j'ai vu aux infos oui, que effectivement la cathédrale était en feu. Sur le coup, j'ai dit « waouh, j'ai été limite anéanti ». Puis j'ai essayé de rappeler Franck plusieurs fois, j'arrivais plus loin du tout.
J'étais déjà sur le chemin du retour parce qu'on part acquis de conscience. J'ai repris la voiture tout de suite et à 19h, quand j'arrive sur les lieux, je suis encore au niveau de la 4 près de Bercy. Je vois déjà une grosse fumée blanche en plein centre de Paris. Et là, je comprends que c'est pas une connerie, que la cathédrale est vraiment en feu, que là, on m'a pas fait une mauvaise blague. Arrivé derrière les cordons de sécurité, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder l'incendie. Je suis effondré à ce moment-là, complètement.
Ce qui était stressant en voiture, c'était la flèche. Vous n'avez pas la réalité sous les yeux, vous écoutez la radio. Donc elle va tomber, vous êtes là, vous roulez. Pourvu qu'elle tombe pas, vous continuez à rouler. Ça y est, la flèche est tombée, ça va attaquer les tours. Mais en fait, vous n'avez pas la réalité devant les yeux. Je veux dire, le jour-là, comme Franck l'a eu.
Arrivé derrière les cordons de sécurité, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder l'incendie. Et quand la flèche s'est effondrée, on m'a ramassé la petite cuillère à côté du parvis parce que moi, je me suis effondré complètement. J'ai dit, ça y est, c'est foutu.
C'est incroyable, comme il prend presque la place de cette cathédrale qui s'effondre, enfin, en tout cas, la flèche qui s'effondre sous ses yeux. Et puis, il y a cette scène incroyable Franck, tout d'un coup, qui se ressaisit.
Ouais, Franck se lève, il entend, il capte une conversation entre policiers, il comprend que les pompiers ont du mal à accéder à l'édifice et il se dit « Ah mais là, moi, je connais par cœur cet édifice enfin, ». Et donc c'est là qu'il se ressaisit vraiment.
C'est au moment où j'entends la police en fait, qui explique à un de ses collègues comme quoi les pompiers ont du mal à accéder et tout, où là, on se dit ouais, « faut être actif, on peut aider, on peut faire quelque chose, on peut au moins essayer de sauver ce qui reste à sauver ». J'ai escaladé la grille de Notre-Dame pour pouvoir ouvrir la porte aux pompiers. Qu'ils puissent accéder à la Saint-Christine. Ils n'arrivaient pas à ouvrir, ils n'avaient pas rentré avec le camion. Donc, on avait un chariot élévateur sur place, on a pris le chariot élévateur, on a défoncé les grilles pour qu'ils puissent pénétrer avec les camions, qu'ils puissent sortir les œuvres d'art. Après, c'est un champ de ruines. Hein. Le chantier, il y a des cendres, tout est en feu. On ne sait même plus nous-mêmes où on se trouve à ce moment-là. Il doit être 23h quand mon patron arrive en fait.
Pas eu le temps de poser un pied à terre puisque. Fallait que j'aille tout de suite à la brigade criminelle.
Puis il me dit, Franck, il me dit ça à se corser maintenant. Il me dit, je te présente le commissaire de la police judiciaire. Là, ils nous disent, vous nous suivez, vous partez en audition sur le champ. Moi, à l'instant-là, je pense qu'on me considère comme coupable.
Voilà, j'ai l'impression qu'on me considère comme coupable. On voit vraiment, Marion, que tout se bouscule dans la tête de Franck Panussa, le chef de chantier, parce qu'on l'a bien compris dans le témoignage que vous avez recueilli. Tout va très vite ce soir-là. Il a à peine le temps de réaliser que la flèche s'effondre, d'aider les pompiers à défoncer la porte de la sacristie pour sauver l'édifice, qu'il se retrouve interrogé par les hommes de la brigade criminelle. Et l'audition, elle va durer 7 heures.
Oui, c'est énorme. Jusqu'à 6 heures du matin, en fait, il a fait le tour du cadran. Il s'est réveillé vers 5h, 6h pour être sur le chantier. Puis il sort des bureaux de la police à 6 heures du matin. Pendant toute ces auditions, Franck il va devoir expliquer son travail, expliquer les termes techniques, pourquoi on se trouve à tel endroit, à tel moment, faire le déroulé de la journée minute par minute.
Il n'est pas en garde à vue par contre.
Non, c'est très important de le préciser. Vous avez raison Fabienne, il est en audition libre parce qu'à ce moment-là, et même après, il n'est pas considéré comme suspect, enfin pas par les enquêteurs parce que vous allez l'entendre après, le plus dur c'est finalement la perception du monde extérieur.
Eh bien, on marque une pause, Marion, et on va écouter justement la suite de ce témoignage dans un instant, avec, on va l'entendre, des hommes totalement dépassés, effectivement, par l'onde de choc de cet événement.
Europe 1, Europe 1. 13h13, la suite de Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. C'est avec vous, Fabienne Lemoine.
Et toujours avec moi en studio, Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. On revient sur cet événement qui a donc marqué l'année, l'incendie de Notre-Dame, avec pour la première fois, je vous le disais, ces hommes qui travaillaient sur le chantier de l'échafaudage de la cathédrale en vue de sa rénovation qui parlent. À l'instant, on a entendu leur sidération quand ils apprennent que la cathédrale est en feu. Ils se retrouvent alors à la brigade criminelle toute la nuit, entendus par les enquêteurs. Et puis c'est le jour d'après où tous les regards sont braqués sur leur entreprise, car tout le monde cherche pourquoi le feu a pris. Et on va l'entendre, L'onde de choc pour eux est terrible.
Le lendemain, dans nos bureaux à Jarny, il y avait 300 journalistes. On ne sait pas ce qu'il y a eu. On est des brûleurs de cathédrales, on est des incendiaires, on a eu des menaces de mort, des menaces au bureau, être obligé de faire venir la police la nuit, des gardiens de nuit chez nous au bureau pour ne pas se faire agresser.
Ça a appelé chez nous, c'est l'accueil, on avait vraiment l'impression d'être des criminels. Enfin, c'est un monument... Monument historique français, mondialement connu. On est mis en tête de liste parce que ça a été la première chose qui a été dite. L'incendie est dû au chantier. Je réalise aux 20h, c'est quand je vois que le premier titre des journaux, c'est les ouvriers pour le moment libérés. Je suis reparti en audition le lendemain à 9h avec toute l'équipe avec qui j'étais, avec les 7 ou 8 gars avec qui j'étais sur le chantier, où on a repassé une dizaine d'heures en audition.
Franchement, ça m'a fait de la peine de les voir parce qu'ils étaient vraiment dans un état psychologique déplorable. Les gars qui ont bossé un an sur le départ de chantier, ils étaient complètement laminés.
Je veux bien que l'événement est démentiel, mais il y a quand même des hommes derrière. Il reste quand même un côté humain. Et cette semaine-là, le côté humain, nous, on ne l'a plus perçu du tout. Derrière tout ça, il y a quand même des pères de famille, des mecs qui ont des enfants, qui sont super jeunes, qui ne comprennent pas. Ça a été jusqu'à l'école maternelle de certains de mes gars.
Un de nos gars, ses enfants avaient été lynchés, entre guillemets, hein. Ton père c'est un incendiaire. Et à un moment donné, je le vois, il est sur le chariot élévateur, et puis il était pas bien, quoi. Je lui dis, il y a quelque chose qui va pas, Jérôme et tout. Donc il me parle de ça, et puis il tombe en pleurs dans mes bras. Donc j'avais la chair de poule. Et donc je l'ai arrêté, et franchement, à un moment donné, j'ai été me foutre derrière un bungalow, et j'ai versé des larmes parce que je pouvais plus me tenir. Franck, il était à bout aussi, quoi, mais pas à bout par le boulot. À bout des auditions. Mais il fallait qu'ils restent là, les équipes, en plus. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Il fallait qu'ils restent à disponibilité de la criminelle. Les mecs, ils cogitent, quoi.
Je cherche toujours à savoir ce qui s'est passé. Tant que je ne saurais pas ce qui s'est passé, j'aurais toujours un sentiment de culpabilité.
Toujours ce mot de coupable culpabilité, même si on le rappelle, hein, ils ne sont pas suspects dans l'enquête. Mais ce qui est vraiment marquant à travers leur témoignage, Marion, c'est ce que vous disiez, c'est des hommes qui se sont retrouvés pris au cœur d'un événement qui les dépasse totalement.
La différence de taille, elle se voit parfaitement sur une photo qui m'a envoyé, une photo de l'équipe. On voit les ouvriers au pied de Notre-Dame, ils sont tout petits. Notre-Dame est immense. Je trouve que ça évoque bien cette résonance d'un événement qui les dépasse.
Alors, ils l'ont dit, ils ont passé 7 heures en audition. Ils ressortent de cette nuit totalement épuisés. Il faut se remettre d'ailleurs au travail derrière. Et puis, il faut se remettre dans le contexte, Marion. Les médias, évidemment, et nous, en premier à Europe 1, on suit l'enquête minute par minute et on cherche, comme ces hommes, à comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là et qui est à l'origine de ce départ de feu.
Oui, et il y a notamment un article qui va marquer ces ouvriers, c'est un article du Canard Enchaîné. C'est les premiers à évoquer les mégots qui sont retrouvés au pied du chantier. Face aux enquêteurs, on l'apprend grâce à cet article et puis c'est confirmé ensuite, les ouvriers, certains d'entre eux, ont reconnu avoir fumé des cigarettes sur le chantier, alors que c'est bien sûr interdit en dépit des règles de sécurité. Mais il n'est pas établi à ce moment-là, ni aujourd'hui encore d'ailleurs, que c'est un mégot mal éteint qui est à l'origine de l'incendie.
Alors, au-delà de ça, en plus, pour ces ouvriers, c'est l'entreprise elle-même qui s'est retrouvée menacée.
Oui, Europe Échafaudage, on rappelle son nom, a été à deux doigts de la faillite. Et quand Frédéric Reich, le conducteur de travaux principal, en parle, vous allez l'entendre, il a vraiment la gorge nouée.
Tout s'enchaîne, hein. C'est les banques qui coupent les vivres. C'est, on sauve la cathédrale, mais on pompe dans la trésorerie, mais jusqu'à un certain moment. Et puis, au bout de deux semaines, toutes les commandes qui ont passé, il fallait les payer au cul du camion.
On voulait plus nous assurer, hein, parce que personne ne savait ce qui allait se passer. Donc voilà, il y a des boîtes intérimaires qui nous ont lâchés carrément.
À la fin du premier mois, on n'était pas sûr de ne pas fermer l'entreprise parce que ça a été loin. Ça fait mal.
Ils disent ça fait mal, mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont quand même tourné la page?
La tempête, elle est passée, mais ils n'ont pas complètement tourné la page. Hein. Ils y pensent tous les jours à ce 15 avril. Aujourd'hui, heureusement, l'entreprise, elle est à flot. Ce matin encore, Didier Cuisé m'expliquait qu'il avait un nouveau chantier en province. Enfin, l'entreprise, elle se porte bien. Eux, ils en portent quand même encore les séquelles, même s'ils arrivent à prendre un peu plus de recul aujourd'hui.
Et 5 gros premiers mois là où j'étais encore un peu plus pris dans le chantier que là, non, j'ai délaissé un peu tout ce que j'avais à côté pour donner tout ce que j'avais sur Notre-Dame. Donc, j'ai privilégié une cathédrale un peu à ma femme, donc ouais, à l'heure actuelle, elle m'a dit c'est bon, un peu stop.
Privilégier le sauvetage de Notre-Dame à nos familles, c'est vrai, ouais. Nos vies de famille, c'est exactement ça en fait.
L'objectif, c'est de toute façon qu'il faut qu'on reconstruise la cathédrale. Après, peu importe comment on veut la reconstruire, mais bon, pour le moment, il faut quand même que nous, on soit présents. Enfin, moi, je ne me vois pas autre part qu'ici. À l'heure actuelle, je ne me vois pas sur un autre chantier que celui-là. Il y a un lien qui s'est créé entre moi et la cathédrale. Je sens le besoin d'être ici.
Tout le monde a demandé à revenir sur ce chantier. Là, ça devient une belle histoire de solidarité entre collègues. Puis on va la sauver, on va la reconstruire. Tous les chantiers sont beaux, hein, qu'ils soient petits ou gigantesques. Mais après, voilà, la cathédrale Notre-Dame, je pense que c'est quand même le Graal.
On sent vraiment cet amour pour cette cathédrale, vraiment qui reste très puissant. Hein. On comprend pourquoi ils vous ont donné rendez-vous au pied de cet édifice, hein, quand même. Hein. Où on en est au niveau de l'enquête ?
Eh bien, pour le moment, il n'y a aucune responsabilité qui a été identifiée ou dégagée. C'est important de rappeler que l'information judiciaire qui a été ouverte en juin dernier par le procureur de la République de Paris, elle est ouverte contre X. C'est-à-dire que pour le moment, ni les ouvriers d'Europe Échafaudage, ni les employés de Notre-Dame qui étaient présents le jour de l'incendie, ne sont suspectés ou ne sont inquiétés. Le procureur de la République, Rémy Hetz, a évoqué deux hypothèses pour ce départ de feu. Une cigarette mal éteinte, un dysfonctionnement électrique, mais il refuse de communiquer davantage. C'est désormais une bataille d'experts, c'est ce que me confiait une source proche du dossier. De nouveaux prélèvements doivent être réalisés prochainement. De toute façon, l'enquête, comme la rénovation de la cathédrale, elle va prendre encore plusieurs années.
Merci beaucoup Marion Dubreuil et on continuera bien sûr à suivre l'évolution de cette enquête avec vous et tout le service police-justice d'Europe 1. Merci.
Europe 1.
À suivre, on part dans le nord de la Syrie, reportage exceptionnel au cœur de ces prisons kurdes où se trouvent actuellement des djihadistes de l'État islamique.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Tout Terrain sur Europe 1, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte avec Fabienne Lemoyle.
Et on poursuit donc Tout Terrain avec une plongée exceptionnelle au cœur du nord de la Syrie. Alors que le sort des anciens djihadistes de l'État islamique depuis la mort de leur chef al-Baghdadi continue à poser question. Bonjour Gwendoline de Bonneau.
Bonjour.
Grand reporter à Europe 1, vous rentrez tout juste de cette zone. Vous étiez où précisément ?
Alors dans le nord de la Syrie, dans cette partie de la Syrie qui était contrôlée majoritairement par les forces kurdes. Donc c'est une zone qui se trouve entre la frontière turque et la frontière irakienne dans ce nord de la Syrie où il y a, on va le voir, beaucoup de forces qui sont en présence en ce moment.
Oui, parce qu'on avait l'impression, Gwendoline, depuis la chute de Barouz, qui remonte à mars dernier et qui a marqué la chute de l'État islamique, que finalement, il n'y avait pratiquement plus de combats dans cette zone.
Alors, il n'y en avait plus jusqu'à ce que Donald Trump donne son autorisation, en quelque sorte, au président turc Recep Tayyip Erdogan pour avancer en Syrie, une chose qu'il demandait depuis longtemps pour différentes raisons. Donc, il y a deux mois, Erdogan a envoyé ses forces, appuyées par des miliciens pro-turcs, des Syriens. Dans ce nord de la Syrie, on parle d'une bande de terre qui fait à peu près 120 km de long sur 30 km de large. Et ils ont avancé dans cette enclave qu'ils ont prise jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit signé. Cessez-le-feu qui est assez peu respecté.
Et donc, quand vous étiez sur place, il y avait toujours des combats en cours.
Alors, il y a toujours des combats, des accrochages. Et surtout, ce qui est très surprenant quand vous êtes sur place, c'est que dans cette toute petite zone qui était à l'époque contrôlée uniquement par les Kurdes, quand vous êtes sur la route, par exemple, vous voyez des convois américains. Et puis, vous tournez à droite, vous voyez des convois du régime syrien. Vous voyez des drapeaux russes, des militaires russes, il y a aussi des militaires turcs, des militaires kurdes. Donc il y a énormément de gens qui se sont installés dans cette zone qui était avant contrôlée par les forces kurdes uniquement.
Et on mesure, vu les forces en présence, combien cette zone est cruciale effectivement par rapport à tout ce qui se joue dans cette région. Alors vous vous êtes rendu dans une prison dans ce secteur qui est actuellement contrôlé par les Kurdes, où sont emprisonnés des milliers de djihadistes de l'État islamique. On va écouter un extrait de votre reportage qui a été diffusé dans la matinale. Et vous nous rencontrez ensuite qui sont ces hommes et comment vous avez pu leur parler.
Les Kurdes n'ont rien dit de l'offensive turque aux 5000 djihadistes détenus ici, tout comme aucun d'entre eux ne sait qu'Aboubakar al-Baghdadi est mort. Il y aurait une émeute s'ils l'apprenaient, nous dit un garde. Dans cette prison sont gardés les jusqu'au boutistes, les djihadistes restés dans le califat jusqu'à l'ultime réduit de Barouz. Nous entrons dans une salle réservée aux blessés. À l'orange vif des combinaisons portées par ces prisonniers s'ajoutent le blanc des bandages et le gris métallique des broches fixées dans les membres. Les visages sont jaunâtres et les corps amaigris, comme celui de cet Américain. Je suis anémié, dit-il, et certains meurent ici en n'ayant plus que la peau sur les os. Leur état de santé tient aussi à leur choix d'être restés jusqu'aux dernières heures du califat, mais ils préoccupent les Kurdes. Depuis l'intervention turque, dit le responsable de la prison, il est difficile d'assurer la logistique.
Notre plus gros problème, c'est l'accès à l'eau. Les Turcs ont bombardé une grosse station d'eau et nous avons besoin chaque jour de 2000 litres pour cette prison. Désormais, il faut faire 90 km pour l'acheminer, c'est très compliqué. L'autre gros problème, ce sont les médicaments. Beaucoup ne sont tout simplement pas disponibles.
L'offensive turque complique également les rotations des Kurdes qui gardent la prison. En effet, dès les premières frappes, beaucoup d'entre eux ont été envoyés au combat sur la frontière.
Voilà donc Gwendoline pour un extrait de votre reportage. Je veux dire que c'est assez saisissant.
Alors dans cette salle de la prison que les Kurdes d'ailleurs appellent l'hôpital, ça n'a absolument rien d'un hôpital, il n'y a pas de soins vraiment possibles. C'est disons la salle où ont été mis tous les combattants de l'État islamique qui viennent de Barouz, donc qui ont participé à cette dernière bataille, donc qui ont été blessés et qui ont vécu un certain temps, évidemment en mangeant très peu, en buvant très peu. Donc c'est une salle où sont rassemblés les combattants qui sont blessés.
Et donc vous expliquez bien que s'ils sont dans cet état, c'est effectivement parce qu'eux, ils ont voulu se battre jusqu'au bout. On a entendu un djihadiste étranger, américain, vous avez aussi interviewé un Suisse. Qui sont les hommes dans cette prison? Principalement des étrangers, justement?
Non, pas principalement. La majeure partie des gens qui sont dans les prisons kurdes, les Kurdes ont aujourd'hui à peu près sous leur garde 12 000 prisonniers. C'est beaucoup. Dans cette prison, il y a 5 000 hommes, mais sur ces 12 000 prisonniers, il y a 10 000 ressortissants irakiens et syriens. Donc les combattants étrangers, il y en a beaucoup. Quand on rentre dans une prison, on tombe sur eux, mais c'est en fait une minorité.
Des Français ?
Des Français, oui, il y a des Français, absolument. Il y a moins d'une centaine de Français, mais il y a des Français qui sont dans les prisons kurdes aujourd'hui, absolument.
Et alors, comment ça se passe? Est-ce que vous avez pu leur parler facilement? Est-ce qu'on vous a laissé la liberté de vous déplacer dans cette prison comme vous le souhaitiez?
Alors, étonnamment, plutôt. Je dois dire que j'étais assez surprise. Il y a des gardes qui vous ouvrent les portes, mais vous pouvez discuter avec un petit peu qui vous voulez dans ces différentes salles, parler aux hommes, leur demander leur parcours, depuis combien de temps ils sont là, et aller voir un petit peu les différentes cellules. C'est comme ça, notamment, que je suis tombée sur ce djihadiste suisse, Daniel Demanger. S'il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que les Kurdes ont une règle qui est quand même très stricte, qui demande aux journalistes de respecter, c'est de ne pas parler de ce qui se passe à l'extérieur.
C'est incroyable. Vous dites au début de votre reportage que ces hommes, alors qu'il y a un mois et demi qu'Al-Baghdadi est mort, ne le savent toujours
non.
pas.
Non, et ils le savent. Il y a, dans toutes les prisons du monde,
il
y a des fuites.
Il y a des portables dans les prisons.
Pas là. Pas dans ces prisons-là. Il n'y a pas non plus de visite. Il n'y a pas de parloir. Il n'y a pas de. Donc, à la différence des camps où toutes les femmes djihadistes savent très bien ce qui se passe, dans les prisons, les hommes ne sont pas au courant de l'extérieur. Ils n'ont vraiment aucune idée. Et les Kurdes font vraiment très attention à ce qu'ils ne le sachent pas, parce qu'ils ne veulent pas avoir une émeute dans la prison. D'autant plus qu'on sait que l'État islamique, c'est quelque chose de très important dans ses actions depuis bien longtemps, depuis avant la création de l'État islamique, depuis Al-Qaïda en Irak, de faire des libérations de prisons, d'attaquer les prisons. Donc il y a un gros problème de sécurité, et une des manières des Kurdes de gérer ce problème de sécurité, c'est de maintenir tous ces hommes dans l'ignorance la plus complète.
Vous restez avec nous, Gwendoline, on marque une pause et dans un instant, vous allez nous raconter ce qui se passe cette fois dans un camp, le camp d'Alol, camp aussi géré par les Kurdes qui accueille près de 70 000 personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants de familles de djihadistes, et on va le voir, la situation y est très préoccupante.
13h32, c'est Tout Terrain. Vous écoutez Fabienne Lemoyle et les reporters d'Europe 1 comme tous les samedis de 13h à 14h.
Retour dans Tout Terrain avec cette plongée exceptionnelle qu'on poursuit au nord de la Syrie avec ce deuxième reportage que vous avez réalisé dans la région Gwendoline de Bono. Cette fois, on est dans le camp d'Alol qui accueille de nombreuses familles de combattants de l'État islamique. C'est en fait une vraie ville de près de 70 000 personnes avec une présence encore très forte, on va l'entendre, dans les esprits de l'État islamique.
La clôture grillagée qui entoure l'immense camp d'Al-Hol sur des kilomètres n'est pas un obstacle bien difficile à franchir. En à peine 2 mois, 700 femmes djihadistes ont tenté de s'en évader, le plus souvent des Syriennes et des Irakiennes. Une centaine y est parvenue, les autres ont été arrêtées dans ce bout de désert rocailleux où les cellules de l'État islamique sont actives. Un membre de l'administration du camp le reconnaît. Avec l'hiver qui approche, nous nous sentons dépassés.
Nous vivons dans l'inquiétude ici au camp. Les passeurs rôdent en permanence. Les familles de l'État islamique exploitent les éléments comme la pluie ou le brouillard. Lorsqu'elles s'échappent, elles vont près du camp. Les passeurs les attendent à 2 ou 3 km.
Dans les allées du camp, les fils des écouteurs sortent des niqabs noirs. Les portables sont dans toutes les mains. Les numéros de passeurs s'échangent. Cette Irakienne connaît la grille tarifaire par cœur. Ses voisins ont fait le voyage.
Les personnes que je connais sont arrivées à Erbil. Elles sont bien, tranquilles, dans une maison.
Une femme, index levé, interrompt la conversation.
L'État islamique restera et nous ferons du camp d'Al-Hol l'un de ses gouvernorats.
Ici, difficile de terminer une interview sans qu'une djihadiste ne vienne proclamer le slogan de l'État islamique. Pour ces femmes, partir du camp, c'est aussi partir en mission. Toutes veulent mener la bataille idéologique dans la région.
Je veux aller avec ma famille en Turquie. La Turquie, c'est mon rêve pour faire en sorte que l'État islamique revienne.
Ce qui est effrayant, Guadeloupe, quand on écoute votre reportage, c'est que la présence semble encore très forte dans les esprits de l'État islamique. Et vous me l'avez dit aussi, ça se voit particulièrement à travers les enfants.
Les femmes et les enfants, oui. C'est... D'abord, les femmes qui sont à Al-Hol sont vraiment des femmes extrêmement convaincues par le bien fondé du groupe État islamique. Elles ont vraiment à cœur, c'est presque un devoir pour elles, elles le disent très clairement, de maintenir cette idéologie et surtout de la transmettre. C'est leur manière à elles de faire le djihad, de transmettre cette idéologie à leurs enfants.
Elles le transmettent comment, du coup ?
Par l'éducation. Donc oui, vous avez des enfants qui vous répètent les slogans de l'État islamique, exactement comme leur mère, qui sont un peu provocateurs, voilà, en menaçant physiquement ou qui jettent des cailloux. Enfin, quelque chose dont les femmes, dont les mères sont assez fières. Et pour le coup, ce qui est vrai, c'est que l'État islamique... un contrôle énorme sur ce camp.
C'est... Mais ça veut dire que normalement, c'est les Kurdes qui tiennent normalement ce camp, mais finalement, ce camp n'est plus sous contrôle.
Le camp est sous contrôle, mais à l'intérieur du camp, c'est un camp où on a le droit d'avoir des portables. On ne peut pas interdire à 70 000 personnes dans un camp.
C'est pas une prison.
C'est vraiment comme un camp de réfugiés avec des tentes, un petit marché au milieu. Mais ces épouses de l'État islamique, elles ont accès à beaucoup de choses qui ne sont pas possibles en prison. Elles peuvent avoir des portables, elles peuvent discuter. Donc l'organisation s'organise beaucoup à partir d'Al-Hol, c'est-à-dire que vous avez des djihadistes de l'État islamique qui, quand ils veulent coordonner des choses, utilisent ces femmes qui ont des portables comme relais. Donc l'organisation a une énorme prise sur le camp. Les Kurdes le gardent, font un peu comme ils peuvent pour limiter les évasions et surtout pour gérer la sécurité à l'intérieur. Parce qu'Al-Hol, il faut se rendre compte que c'est vraiment des gens très convaincus qui ont reproduit un mini Raqqa dans ce camp. Donc vous avez
ça vous a marqué parce que vous y êtes allé en avril dernier. Vous m'avez dit c'est plus du tout la même ambiance.
Là, je trouve que c'est avec toutes les femmes aussi qui sont sorties de Barouz, enfin les plus convaincues, beaucoup des Syriennes et des Irakiennes. D'ailleurs, il y a des étrangères, mais une majorité de Syriennes et Irakiennes. C'est une mentalité qui est extrêmement dure. Vous avez des gens qui sont poignardés extrêmement régulièrement. Quand on y était, il y a une femme qui s'est fait poignarder de plusieurs coups de couteau, qui est morte dans la section des étrangères, une Turkmène, pour une histoire manifestement de problèmes autour de la manière dont elle mettait son voile. C'est un camp qui est extrêmement violent. Les Kurdes essayent de réguler tout ça. Mais encore une fois, beaucoup d'ONG sont parties. Il n'y a plus assez de moyens pour tout le monde. Mais l'intérieur du camp, c'est les femmes qui s'organisent entre elles. Et les gardes kurdes, d'ailleurs, n'ont pas envie d'aller très loin dans ce camp qui est effectivement une ville. Après, le vrai danger de ce camp, moi, je trouve, et des évasions qu'il y a dans ce camp, c'est toutes les ressortissantes syriennes et irakiennes qui ont vraiment la volonté de retourner pas très loin, et elles y arrivent, parce qu'il y a vraiment beaucoup de passeurs, parce que c'est très facile de sortir de ce camp. Tout de même, elles y arrivent avec cette volonté, chevillée au corps, de maintenir l'idéologie de l'État islamique vivante.
Merci beaucoup Guadeloupe de Bodon, et on vous retrouvera demain dans les Carnets du Monde avec Sophie Larmoyer, puisque vous reviendrez cette fois sur la situation des Kurdes qui ont dû fuir justement face à l'offensive turque. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
À suivre, il y a 20 ans, l'Erika faisait naufrage au large de la Bretagne. Le pétrolier se brisait en deux, provoquant l'une des plus grandes marées noires qu'aient connues les côtes atlantiques. Et à Belle-Île-en-Mer, il en reste encore des traces dans les têtes.
13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Il est 13h40, on retrouve Fabienne Lemoyle pour la suite de Tout terrain, l'émission des reporters d'Europe 1.
C'était il y a 20 ans. L'Erika se brisait en deux au large de la Bretagne, souillant les côtes. Des milliers de bénévoles se sont alors lancés dans un grand nettoyage. Parmi eux, un instituteur de Belle-Île-en-Mer, encore très marqué.
Une gangue noire sur la plage, on est sidéré, complètement dévasté, en disant « mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Les gens m'amenaient les oiseaux, on était plusieurs à vérifier si on pouvait les sauver ou pas. J'en ai tué 300 pendant toute la journée. J'étais en larmes. Ça reste. C'est terrible.
Bonjour François Coulon.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 dans l'ouest de la France, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage où on sent déjà poindre l'émotion dans ce premier extrait. Pourquoi ce choix d'un bénévole à Belle-Île-en-Mer, au large de Quiberon, donc dans le Morbihan, alors que vous auriez pu aller à la rencontre de bénévoles en Loire-Atlantique ou en Vendée, où là aussi les côtes ont été très touchées?
Alors c'est vrai, mais ce qui m'a marqué à Belle-Île, c'est d'abord la complexité supplémentaire immédiate induite par l'insularité. Tout a été très vite beaucoup plus compliqué qu'ailleurs, avec des norias de bateaux, d'hélicoptères imposés. Et puis, il y avait aussi ce contraste encore plus fort qu'ailleurs entre une nature sublime, particulièrement vierge, très épargnée par la pollution, et cette horreur qui a subitement maculé ce bijou. Le choc, ici, a été vraiment terriblement violent.
Vous avez donc rencontré ce bénévole. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque ?
Alors Hervé Recanati, c'est son nom, était l'un des instituteurs de Lille en décembre 1999, amoureux inconditionnel de son caillou. Ce matin de Noël, il s'est précipité à la plage de Donon.
Et on va l'entendre dans ce premier extrait, François, 20 ans plus tard, il reste très marqué par cette catastrophe. On écoute son témoignage.
La première chose, c'est qu'il n'y avait pas de bruit. Alors qu'à Donon, il y a des rouleaux, et depuis la nuit des temps, les rouleaux sont toujours fracassés sur cette plage. Et là, il n'y avait pas un bruit. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une odeur absolument épouvantable. Une gangue noire sur la plage, on est sidéré, complètement dévasté, en disant « mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» On commence par où ? Les gens m'amenaient des oiseaux, on était plusieurs à vérifier si on pouvait les sauver ou pas. J'en ai tué 300 pendant toute la journée. J'étais en larmes. Ça, ça reste. C'est terrible. On a honte d'être des humains. Il n'y avait pas de bateau. Il y avait un sentiment d'abandon absolument extraordinaire. On disait, mais il n'y a personne pour venir nous aider. On avait l'impression d'être sur le radeau de la Méduse, d'être seul. Au départ, on faisait n'importe quoi, parce que tout ce qu'on nettoyait, on avait l'impression que ça ne servait à rien, parce qu'à la marée suivante, il fallait tout recommencer. C'est un pétrole de très mauvaise qualité, donc très nocif. J'ai glissé, je suis tombé dans la flaque. C'était épouvantable. À l'époque, on m'avait nettoyé au beurre. Il y a énormément de gens qui sont venus, mais des quatre coins du monde, de l'Australie, de Nouvelle-Zélande. Belle-Île est connue dans le monde entier. Le problème, c'est que quelques jours après, le 29 décembre, il y a eu des vents à 183 km/h. Ce pétrole-là a été soulevé par la tempête qui a repeint toutes les falaises. On a des falaises qui font une quarantaine de mètres, qui étaient enduites aux deux tiers. Il faut pouvoir y accéder aux falaises. Et là, on a vu venir les montagnards. Des alpinistes qui, avec des tyroliennes, ont fait un travail absolument extraordinaire.
C'est vraiment incroyable cet élan de solidarité. Puis on va juste faire un petit point de géographie pour bien comprendre pourquoi Lille a pris de plein fouet effectivement cette marée noire de l'Erika. C'est que la plage du Donon, elle donne directement effectivement vers le large. Et puis pour recontextualiser cette beauté de Belle-Île-en-Mer, pour ceux qui connaissent, c'est juste un petit peu au nord, la plage du Donon, des fameuses aiguilles de Port-Coton qui s'élèvent comme ça dans la mer et qui sont si superbes dans l'océan. François, il a fallu près de 3 ans pour traiter plus de 3000 tonnes au final de déchets pétroliers sur Belle-Île-en-Mer.
Oui, et une nouvelle fois, rien n'a changé. C'est essentiellement l'huile de coude qui est venue à bout de l'envahisseur.
On appelle ça de l'aigleur. Rien que le mot, on comprend ce que ça veut dire. Cette espèce de goudron infâme, comme le sparadrap dans Tintin qui ne peut pas l'enlever. Quoi. C'est exactement la même chose. Quoi. C'est indémerdable. Et on avait beau tout essayer... à la fourchette, à la cuillère, à la brosse à dents, à la brosse de lin, à la brosse de fer, frotter avec du sable, avec du savon, avec de l'huile, avec du beurre, il n'y a rien à faire. Ça s'est enlevé au fil du temps avec des produits qui, eux aussi, ne devaient pas être très très bons à inhaler. Ce qui était incroyable, c'est la difficulté. Pour nettoyer, vous aviez 1 mètre carré, ça vous prenait une matinée.
Le PDG de Total est venu ?
Oui, bien sûr, Monsieur Desmarais, il est venu, oui. Parce qu'il y avait des gens qui lui auraient bien fait la peau. On cherche toujours des boucs émissaires. Il fallait lui faire les poches. Moi, je l'ai vu, moi, j'ai discuté avec lui en lui disant, voilà, vous pourrez nous donner tout le pognon que vous voulez. Mais moi, le premier jour, j'ai euthanasié plus de 300 oiseaux et ça, vous ne pourrez jamais nettoyer ma tête de ça. Ça m'arrive hein, encore d'y penser. Je vais à la pêche, je vois les oiseaux, ça fait tilt. Je regarde toujours pour voir s'ils ne sont pas mazoutés. Qu'on nous ait abîmé notre île comme ça, c'est impardonnable, c'est inadmissible. Moi, j'ai la conscience tranquille. Pour moi, j'ai mis la main à la pâte.
Et vous y avez laissé des plumes, sans jeu de mots ?
Oui, j'ai des problèmes respiratoires. J'en avais pas avant.
Le pétrole de l'Erika, il y en a encore sur l'île ?
Il n'y en a vraiment plus de traces, quoi. Si on creuse à 10 ou 15 mètres sous le sable de Donon, on trouve encore des poches qui se sont enfouies avec le temps. Mais force est de reconnaître que Belle-Île est magnifique.
Vous avez réussi à tout nettoyer ?
Ah oui, non, vraiment. Jusqu'à la dernière petite crotte de pétrole, on a tout nettoyé à la brosse à dents.
Ça vous a pris combien de temps ?
3 ans. C'est l'abnégation des gens d'ici et des amoureux de l'île. Puis la nature, de toute façon, un jour ou l'autre, la nature reprend ses droits. Il faut que tout le monde vienne voir Belle-Île. Pour preuve qu'elle est bien nettoyée. Évidemment, on avait tous ce mot à la bouche, plus jamais ça. Et puis, il y a eu le prestige. Et puis, de toute façon, il y en aura une autre. Une marée noire, il y en aura une autre. Faut pas se leurrer.
Voilà pour ces témoignages très forts et on sent que c'est toujours très présent. Et puis il faut rappeler aussi que dans la mémoire bretonne, hein, il y a eu le Torrey Canyon, il y a eu le Bolen, il y a eu la Moko Cadiz. Donc effectivement, il y a toujours cette inquiétude d'une marée noire qui peut se produire. Mais est-ce qu'au final, les communes de Lille ont été indemnisées ?
Écoutez, d'après ce que m'a dit un premier adjoint tout à l'heure, non, pas d'indemnité. Total, ayant financé toutes les dépenses liées à la dépollution de l'île, n'a apparemment pas été contrainte par la justice à mettre à nouveau la main au portefeuille.
Merci beaucoup François Coulon pour ce témoignage très marquant et qui, je crois, effectivement, vous a aussi, vous aussi, beaucoup marqué par l'implication de ce bénévole dans le nettoyage de son île pour qui il a un véritable amour, on l'entend et on le comprend. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1.
Allez, pour terminer tout terrain, dans un instant, je vous emmène en cuisine avec Pierre Herbulot. Je sais que comme moi, vous adorez cette chronique
Dans l'ombre
tous les
des grands chefs.
Voilà, dans le 18-20 avec Wendy Bouchard. Eh bien, Pierre va nous expliquer comment il opère pour glisser son micro jusqu'au fond des casseroles.
Ça va être bien. Il est tout juste 13h50, tout terrain, dernière partie. Nous sommes avec vous, Fabienne Lemoelle, pour quelques minutes encore.
Allez, pour terminer tout terrain, je vous emmène en cuisine. Notre guide, Pierre Herbulot, qui va nous livrer tous les secrets de sa chronique « Dans l'ombre des chefs ». Chronique qui enchante nos papilles tous les samedis à 19h30 dans le 18-20 de Wendy Bouchard.
Je vous emmène ce soir chez un meilleur ouvrier de France, Stéphane Buron, à Courchevel. Bonsoir chef.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous allez nous faire comme plat ce soir ?
Eh ben, on va faire un petit rideau autour de la carotte avec acidulé au ponzu et yuzu.
L'idée, c'est de faire une assiette 100% végétale avec du cru, du cuit, mais assez simplement et que ce soit bon et savoureux.
Carpaccio de bonnie de fumée, concombre, avocat et wasabi.
Fantastique. Par quoi on commence ?
Alors on va commencer par le blanc manger. Donc on décortique les langoustines.
Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour Fabienne.
Je dois dire qu'on vient d'entendre quelques extraits de vos chroniques. Paris vraiment gagné parce que quand je vous écoute le samedi, on aimerait vraiment être à votre place et on est vraiment au cœur de la cuisine de ces grands chefs. C'est d'ailleurs ça la principale difficulté, vous m'avez raconté Pierre. C'est de restituer de manière sonore le goût, la beauté d'un plat. En gros, chercher le bon son qui va nous faire rêver.
C'est la plus grande difficulté. En fait, quand je suis en cuisine avec les chefs, mon obsession, c'est de trouver du son, des bruits de cuisine. Il faut accompagner l'auditeur. Alors là, ça va être un cours de radio express, mais on dit souvent donner à voir. C'est notre travail en radio. Et c'est le but du jeu en cuisine, c'est de avoir le bruit de la casserole, avoir les sauces, avoir l'ambiance des gens qui travaillent derrière. Je suis vraiment à la recherche du moindre son. Alors, je vous ai fait une petite sélection, Fabienne, de quelques sons que j'ai isolés. Je vous propose d'écouter celui-là.
Ah, c'est une friture, là.
Il y a un côté croustillant, c'est de la nougatine qu'on casse avec les mains.
Quoi, c'était
pour
trompeur.
Mettre dans un petit riolet qui était assez formidable. Allez, encore un.
Ah bah ça, c'est la friture. Ça, c'est les boulettes
de poulpe.
Le poulpe.
Eh non, c'est pas ça, Fabienne. Ça, c'est une tentacule de poulpe snackée. Revenu dans l'huile d'olive à la casserole. En fait, bon, c'est normal de ne pas réussir à deviner comme ça, c'est pas le but du jeu de la chronique. En fait, quand on entend, on sait ce qui se passe, on entend le bruit derrière, ça accompagne. C'est vrai que c'est assez difficile de reconnaître quand même le bruit d'une tentacule de poulpe qui est en train de griller dans une casserole.
Parce que c'est ça votre principe et c'est pour ça que je vous ai invité à nous expliquer comment vous réalisez cette chronique dans tout terrain. C'est que vous baladez en fait au cœur de ces cuisines. Racontez-nous un peu comment vous opérez.
Pour vous dire, on me prend vraiment pour un fou parce que je mets mon micro au plus près des casseroles, quasiment dans la sauce, à côté des légumes quand ils sont en train d'être coupés. J'ai une séquence qui est assez représentative, c'est les boulettes de sardines du chef Giuseppe Messina. Voilà, écoutez un petit peu ce que ça donne.
Avec les mains.
Ah, c'est avec les mains.
Oui. Voilà. Je les écrase. Là, on a mis les œufs, une belle cuillère à soupe de persil et de menthe, 3 belles pincées de sel, une pincée de poivre et un origan. Alors là, moi j'ai rajouté un peu de cacio-cavallo.
Alors là, on est vraiment au cœur de la préparation, effectivement, du plat. Vous avez un seul micro en plus.
Ouais, là, la difficulté, c'est que je dois à la fois être sur la bouche du chef pour entendre ce qu'il dit et dans la casserole, dans la poêle pour entendre le son. Après, il y a des petits montages en radio pour glisser le tout, que ce soit naturel et agréable à l'écoute. On essaye de se mettre soit avant le service, soit juste après, parce que pendant le coup de feu, c'est vraiment impossible de faire une interview avec un chef qui est vraiment à cheval sur ce qui se passe en cuisine. D'ailleurs,
c'est un chef de brigade, hein,
absolument.
C'est ce que vous m'avez dit. Hein.
C'est assez impressionnant quand, par exemple, je me souviens, c'était dans un grand palace parisien juste avant le service. Déjà, il y a une vingtaine de commis de cuisine qui arrivent en même temps. Tout le monde a sa tâche, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Le chef, il est un petit peu concentré sur la chronique. Par contre, quand il voit quelque chose qui n'est pas bien fait, je peux vous dire qu'il change un peu de ton, qu'il va recadrer ça en deux temps, trois mouvements. C'était au Murice, voilà, on peut le dire. Très professionnel, en fait, tout au long, même pendant les chroniques.
Alors, le meilleur moment, c'est la dégustation.
Et je vous ai préparé une petite compilation. Je suis désolé, ça va vous faire saliver un petit peu, mais bon, c'est aussi ça.
Ça, je vous avoue, c'est le meilleur moment de la chronique. Hein. Mm. C'est hyper tendre. J'ai jamais mangé un morceau de cochon aussi tendre, je pense. Mm. Et qu'est-ce que c'est léger? Vous disiez un nuage tout à l'heure.
C'est ça.
C'est un nuage, mais de gourmandise. On dirait que c'est antinomique. Bon, déjà, c'est délicieux. C'est la sucrine, le lard qui apporte le côté gourmand, la petite crème au cep, le goût puissant du champignon qui est vraiment prédominant. Là, on est, je vous disais tout à l'heure, c'est l'automne. Là, on est en plein dedans.
Je vais vous servir.
Ah,
voilà.
Ah là, on voit vraiment que vous y prenez du plaisir. Moi, je comprends pourquoi un de nos fidèles auditeurs du 18-20, Thibaut Normand, vous a envoyé un tweet en disant qu'il y avait un petit côté un peu frustrant avec cette dégustation. Mais je crois que vous l'assumez pleinement, justement.
Absolument. Pour moi, c'est un peu le... Alors, c'est pas le but du jeu, c'est pas d'être frustrant. Mais bon, d'abord, je trouve ça logique.
C'est de créer l'envie, en fait.
Ouais, déjà, et c'est de créer une réaction, en fait. L'auditeur, il est là, il se dit... La chance. J'avoue, hein, je
confirme,
le dis,
hein.
J'assume la chance. J'ai une chance incroyable. Et l'idée, c'est de vraiment donner envie. Et comment donner envie de manger un gâteau si ce n'est de le faire écouter à quelqu'un, quoi. C'est... Voilà,
on et a... d'ailleurs, là aussi, quand on disait que les chefs jouent le jeu, comme vous avez un micro, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
C'est le chef qui devient mon commis de radio. Je lui donne le micro. Moi, je prends ma petite fourchette, ma petite cuillère selon le dessert, le plat. Et puis, il me met le micro proche de la bouche. Et alors, c'est assez rigolo, la séquence où je fais travailler le chef, en fait, alors qu'il vient déjà de me faire une recette. Mais bon, ça permet d'avoir la séquence dégustation voilà, jusqu'au bout.
Alors, comment on choisit aussi ce qu'on va faire découvrir aux auditeurs, Pierre Herbulot?
En fait, moi, je choisis d'abord en fonction du nom du chef qui soit connu, qui soit connu et reconnu, savoir que ça va être un travail de qualité, ça c'est déjà le premier critère. Et ensuite, le but du jeu, c'est pas que les auditeurs leur fassent à chaque fois, mais c'est qu'ils puissent au moins avoir envie d'essayer.
Parce qu'on retrouve la recette effectivement après sur le site europe1.fr.
La plupart des chefs jouent le jeu, nous donnent la recette, ils sont assez transparents là-dessus. Donc on met la recette sur le site, c'est bien de pouvoir le faire, que ce soit quand même un petit peu accessible. Et donc, moi je leur demande aussi, en fonction du son, des desserts qui soient, ou des plats où il y a du travail qui est très sonore, et puis des choses qui sont voilà, assez simples à refaire à la maison la plupart du temps.
Et bien, suivre avec un grand bonheur, et puis on se retrouvera pendant la période des fêtes, parce que je crois que vous nous préparez aussi quelques
surprises.
Un petit
spécial.
Voilà, merci beaucoup Pierre Herbulot. Et on rappelle que votre chronique, on la retrouve dans le 18-20 tous les samedis avec Wendy Bouchard à 19h32 et ça s'appelle À l'ombre des chefs. Merci Pierre.
Europe 1.
Voilà, tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. On en salive encore avec Marlène et on retrouvera Pierre Herbulot d'ailleurs ce soir évidemment à 19h32. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Marion Dubreuil, Gwendoline Debono, François Coulon et donc à l'instant Pierre Herbulot. Un grand merci aussi à Kevin Ousti et Julien Blanc pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tout terrain en podcast sur Europe 1.fr. Et demain à 13h, vous ouvrirez les carnets du monde avec Sophie Larmoyer.